Lisons au chapitre 15 à partir du premier verset. Parole de Jésus, enseignement qu'il donne d'abord à ses disciples. Voici ce que dit le Seigneur. Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai observé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors mon Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Pour ceux qui ont pu partir en vacances, c'est le retour à la maison, de l'habitation temporaire à l'habitation habituelle. On retrouve sa demeure, son habitation principale dans la durée, une certaine durée qui peut être très variable suivant les personnes et les circonstances de la vie. C'est de la demeure dont je voudrais vous parler ce matin et du fait de demeurer. Demeure signifie chez soi, espace du quotidien, repère, habitude, contexte, voisinage, etc. En élargissant le propos, demeurer signifie être dans une certaine situation. Une demeure, c'est aussi un état intérieur ou extérieur, relationnel, dans lequel on est installé, c'est l'idée de durée, de permanence. Sur le plan biblique, une première remarque étonnante. La notion de demeure et le fait de demeurer, c'est quelque chose d'inconnu pour le peuple d'Israël et son histoire rapportée dans l'Ancien Testament. C'est au point que le peuple n'a même pas de mots pour dire cela. Israël est toujours en mouvement, en marche dans le désert, habitant sous les tentes des nomades. Cependant, le peuple rêve de trouver la stabilité et la paix dans le pays de Canaan que Dieu lui a promis. Nous avons là aussi quelque chose qui caractérise tout être humain, plus ou moins, ce balancement entre le besoin de permanence dans la demeure et le besoin d'en sortir, de voir autre chose et de connaître des lieux autres et des demeures provisoires. Dieu, en effet, a promis à son peuple de l'amener dans un pays où il pourrait enfin s'installer, le pays de Canaan que Dieu a promis à son peuple. Mais la réalité de l'histoire est plus complexe. Lorsque le peuple achève son temps de nomadisme dans le désert, c'est l'entrée dans le pays de Canaan. Mais cette entrée se fait par les combats de la conquête. Lorsque le peuple est installé, au bout d'un certain temps, il connaît une instabilité anarchique qui nous est rapportée dans la période des juges. Et puis, il y a les guerres, il y a les désobéissances du peuple, les châtiments de Dieu pour les infidélités de son peuple. Et au milieu de tout cela, l'histoire retient quelques périodes de paix sous David et Salomon en particulier, où se réalise ce dessein de Dieu qui était effectivement de donner un lieu où son peuple pourrait avoir la paix. Je lis quelques versets dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Il s'agit de ce dialogue entre David et Dieu et l'intervention aussi du prophète Nathan qui vient rapporter à David la parole de Dieu. C'est que David a voulu construire une maison pour Dieu après avoir construit sa propre maison. Alors que pendant tout le temps du désert, Dieu avait procuré au peuple une habitation provisoire dans le tabernacle, la tente de la rencontre. Alors voici ce que dit Dieu à David. Il lui dit, à la fin de son propos, « Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, mais ce sera ton fils. Mais depuis tout le temps où j'ai été avec le peuple, depuis la sortie d'Égypte, je n'ai jamais habité dans une demeure de cèdre. » Et voici ce que dit Dieu à David. « J'attribuerai un territoire à mon peuple d'Israël, où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple d'Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. » Voilà la promesse de Dieu à son peuple. Cette promesse s'est réalisée pour un temps. Il est dit que, délivré de ses ennemis, le peuple connut un temps de paix. Mais ce temps de paix n'a pas duré. Et après les royautés de Saül, David et Salomon, les choses sont allées de plus en plus mal. Il y a eu la séparation entre le peuple du nord, autour de Samarie, et le peuple de Juda, autour de Jérusalem. Pour finir, par les destructions de Samarie puis de Jérusalem et l'exil du peuple déporté en Babylone après le temps où ils ont habité dans le pays. Ces événements terribles mettent un terme au beau projet de Dieu. Ainsi donc, dans l'Ancien Testament, demeurer est un idéal toujours espéré, jamais vraiment atteint, qui ne trouve son accomplissement qu'en Dieu. Demeurer. Il y a ce qui passe et il y a ce qui demeure. L'homme est un éternel voyageur. Il ne peut pas demeurer très longtemps ici-bas. D'ailleurs, lui-même, en tant qu'être, créature de Dieu, il ne dure pas très longtemps. Comme toute chair, semblable à l'herbe, il a la vie courte, il se fane et il meurt. Le monde dans lequel il vit paraît du moins plus stable. La terre est solidement posée sur ses bases. Et Dieu a assuré à Noé que tant que la terre subsisterait, la régularité des lois de la nature subsisterait elle aussi. Il y aura des jours et des nuits, il y aura des matins et des soirs, il y aura le printemps et l'automne, l'été et l'hiver, tant que la terre durera. Oui, cette promesse, c'est tant que la terre durera. Car un jour, les cieux et la terre seront ébranlés. Et le Christ a prévenu les siens, le ciel et la terre passeront. Mais il a ajouté, mais mes paroles ne passeront pas. Contraste saisissant entre ce qui paraît solide et qui ne dure pas toujours, et ces paroles qui semblent, elles, de la plus grande, du plus grand caractère éphémère, puisqu'elles s'envolent tout de suite, et Dieu dit, mes paroles ne passeront point. Il est vrai qu'elles ont été gravées pour durer. L'alliance du Sinaï, les paroles de Dieu gravées dans les pierres du Sinaï, cette alliance du Sinaï, pourtant fondée sur la loi et les paroles de Dieu, elle aussi, elle s'est avérée caduque. Les Hébreux, infidèles à l'Éternel, désobéissant à la loi, ne peuvent pas demeurer dans la terre promise, comme nous l'avons vu, et ils vont en exil. Mais l'ancienne alliance n'était qu'une figure passagère de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle aussi, elle a des caractères permanents et des caractères pour un temps. Il y a des réalités dans la nouvelle alliance qui ne sont que pour un temps et qui passeront. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens. Les dons de prophétie et de langue, par exemple, passeront. Mais la foi, l'espérance et l'amour ne passeront jamais. La foi, l'espérance et l'amour demeurent. Le chrétien lui-même sait que sa demeure terrestre n'est qu'une tente qu'il devra quitter pour demeurer pour toujours auprès du Seigneur. Dieu seul demeure. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le Dieu vivant qui demeure à jamais. Il siège dans les lieux inaccessibles, les cieux qui sont sa demeure sainte et éternelle. Il est le rocher stable sur lequel il faut s'appuyer. De Dieu demeure à jamais sa parole, son dessein, son projet, sa promesse, sa royauté, sa justice, son amour. Pour tous ces termes, pour tous ces termes essentiels, il est dit qu'il demeure, comme Dieu demeure. C'est Dieu qui donne solidité et durée à tous ceux qui, sur terre, possèdent quelque stabilité, que ce soit dans l'ordre physique ou dans l'ordre moral. Le juste est comme un homme qui a fondé sa maison sur le roc. La tempête est venue et la maison a résisté. Elle était construite sur le rocher, c'est-à-dire sur le Christ, seule pierre angulaire, inébranlable. Pour subsister, l'homme doit en effet s'appuyer sur la solidité de Dieu, c'est-à-dire croire en lui et persévérer dans la foi, en celui qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est pour cela, parce que Dieu est le rocher des siècles, et parce que, chose tout à fait extraordinaire, il a voulu venir sur la terre et demeurer chez nous et même en nous, c'est parce que Dieu a accompli ce miracle d'amour que nous pouvons aujourd'hui parler de demeurer en tant qu'êtres humains, de demeurer en Dieu. Dieu demeure en nous et nous en lui. Chose extraordinaire, étonnante, merveilleuse, sujet de notre louange et de notre adoration. Oui, la parole de Dieu, celle qui a créé les univers, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus est venu et il a habité parmi nous. Il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, Dieu dont le règne n'aura pas de fin, Dieu qui demeure toujours. Parce que le Père demeure en Jésus et Jésus est dans le Père. C'est tout ce qui précède le texte que nous avons lu, dans lequel Jésus parle de sa relation intime avec son Père et de la relation qu'il vient établir entre ceux qu'il est venu chercher et le Père éternel. Jésus est venu sur la terre. Il est venu lui aussi sur la terre pour un temps. Sa présence sensible doit cesser. Il doit quitter les siens. Mais il doit quitter les siens pourquoi ? Pour deux choses essentielles. La première, c'est pour aller préparer une place dans les nombreuses demeures éternelles qui sont destinées à ceux qui croient. Et l'autre élément, c'est parce qu'il va envoyer son Saint-Esprit qui, lui, va demeurer dans le cœur du croyant, comme un autre lui-même, comme un autre consolateur, médiateur, conseiller, le paraclète que Dieu envoie, que Jésus envoie. Jésus est parti pour préparer les demeures pour les siens et pour envoyer son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc venu et il est venu pour demeurer en chacun de nous. Ayant ainsi reçu l'onction du Saint-Esprit, le chrétien demeure en Christ. Mais il doit le faire de façon consciente et active, à partir de cette riche réalité que Dieu demeure en lui par le Saint-Esprit. Le chrétien demeure et il est appelé à demeurer, parce qu'il est appelé à se nourrir du pain de vie. Le chrétien demeure dans le Seigneur s'il se nourrit du pain de vie, s'il vit comme Jésus a vécu, dans son amour, sans péché, et en gardant sa parole. Et cette expression est aussi très importante, parce qu'elle revient à plusieurs reprises. Demeurer dans la parole ou garder sa parole. Je voudrais commenter cette expression de garder la parole de Dieu à partir d'un texte très connu, le début du psaume 119. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je serre ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles contenues dans ta loi. Je pourrais bien sûr continuer. Tout le psaume est un chant pour la parole de Dieu. Et vous avez dans ce texte déjà les éléments essentiels. Cet attachement fort du croyant à Dieu au travers de sa parole. Et vous avez vu que s'attacher à la parole, demeurer dans la parole, ce n'est pas du tout présenté comme une sorte de devoir de lecture quotidienne, mais c'est présenté comme un sujet de grande joie, de grande reconnaissance et même de délectation, puisque dans ce psaume, on trouve des versets qui parlent de se délecter de la parole de Dieu comme d'un gâteau de miel, par exemple. Demeurez en Jésus en gardant sa parole. Ceci est possible parce que le Père et le Fils viennent faire leur demeure dans le croyant. C'est ce qui est dit dans le chapitre précédent, au verset 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit, mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Parole absolument étonnante, mais réalité profonde sur laquelle se base toute notre vie et la possibilité pour nous de demeurer rattachés au Seigneur. Une union aussi intime et aussi féconde que celle du cep et des sarments dans la vigne, c'est cela qui se forge entre Dieu et le chrétien. Cette union permet aux chrétiens de demeurer, c'est-à-dire de porter du fruit et de vivre éternellement. L'image du cep, de la vigne et des sarments. La première application de cette parole concerne les disciples que Jésus va quitter et qui, habités par le Saint-Esprit que Jésus va leur envoyer, vont être les témoins de Jésus et les continuateurs de son œuvre. Jésus va les quitter. Dans peu de temps, les disciples ne le verront plus. ne pourront plus être physiquement auprès de lui. Ils devront à ce moment-là s'ouvrir pleinement à la venue du Saint-Esprit qui va leur rappeler toutes les paroles que le Seigneur leur a enseignées et tout ce qu'il a fait. Et à partir de cette réalité intérieure, profonde et de cette union intime comme celle du cep et des serments, les disciples pourront remplir leur mission de témoins de Jésus et de proclamateurs de l'Évangile. Voilà l'objectif, l'idéal, la réalité que le Seigneur propose à chacun de ses enfants. Pour le chrétien donc, demeurer en Christ, c'est s'attacher fermement et activement à son enseignement et à son exemple. C'est bâtir sa vie sur tout ce que Dieu a donné aux siens dans le passé, le saisir dans le présent et envisager l'avenir en fonction de lui. Oui, c'est dans ce sens que le chrétien demeure attaché à Jésus-Christ comme le sarment au cep. Cet attachement fidèle se manifeste par la manière de vivre. Et pour vivre, comme nous l'avons lu dans le psaume 119 et comme nous y sommes invités ici dans cette parole de Jésus, pour cela, pour que les fruits soient produits, il faut non seulement s'attacher au Seigneur de tout notre être, mais s'attacher à cette parole pour que cette parole continue à œuvrer en chacun de nous. Nous attacher à l'enseignement de Jésus, en laissant cet enseignement de Jésus, en laissant sa parole, nous purifier, nous transformer à son image, pour que, selon la parole du Nouveau Testament, nous ayons en nous les pensées, les sentiments, les réactions, les manières de voir qui étaient en Jésus-Christ. Laissez la parole de Dieu continuer à faire son œuvre en chacun de nous pour nous amener toujours plus près du Seigneur et toujours plus près de ce qu'il veut pour nous, toujours plus conforme à ses voies. Ainsi, nous continuerons à être transformés à son image et nous serons de plus en plus semblables à notre Sauveur. Nous aurons de plus en plus ses pensées, ses sentiments et ses réactions. Et c'est en cela que nous produirons les fruits que Dieu attend et qui doivent glorifier son nom. Le premier, c'est l'amour. Après, tous les autres en découlent. L'amour des frères et du prochain, qui est le premier et le plus complet de tous les fruits que l'œuvre de l'Esprit produit en chacun de nous. Voilà très simplement ce que je voulais partager avec vous ce matin sur la base de ce beau texte sur le cep et les sarments et sur cette admirable réalité que Dieu demeure en nous et qu'à partir de là, nous pouvons, nous devons demeurer en lui. Et c'est aussi notre joie. Et comme dit le Seigneur, notre joie complète. Amen. Je vous invite à chanter le cantique « Quel sauveur merveilleux je possède » et par le chant de ce cantique, nous nous préparerons à communier en partageant le pain et le vin de la Sainte Cène, à communier dans le don de la vie du Seigneur pour que nous ayons sa vie en nous. Chantons ensemble « Quel sauveur merveilleux je possède » Levons-nous pour chanter ce cantique. Sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. De l'apôtre Paul adressé aux chrétiens de cette église, c'est-à-dire dans le concret, le réel de la vie. Et voici ce qu'il leur dit. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'esprit, une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre dans l'union, dans l'unité, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres, comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est à cela que vous êtes appelés. C'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Il s'est abaissé pour venir chez nous. Il s'est humilié et il a accepté de marcher sur nos chemins jusqu'à la mort sur la croix. Par amour. Quel amour. Quel immense amour.